Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Aline et bonjour Jean-François Ladjé.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Alors nous allons quitter les Visigoths. Bon gré mal gré.
Ce sont eux qui vont nous quitter.
Et nous allons aborder les Francs avec Clovis, fondateur de la dynastie mérovingienne.
Ah, on est en 508, en 507, comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est la bataille de Vouillé, hein, où les Visigoths ont perdu et ils sont priés de quitter la place. Ce qu'ils vont faire en 508... En refluant vers la région de Narbonne et surtout l'Espagne.
Et surtout l'Espagne, oui, Aline. Oui.
Alors, les changements pour Toulouse, qu'est-ce qui va changer?
Qu'est-ce qui change?
Il n'y a plus les Visigoths.
Déjà, les Visigoths sont partis. Alors,
Le royaume disparaît déjà.
Le royaume disparaît.
Ouais. Ils ne sont pas tous partis, alors, la population est restée.
Alors, attends, il disparaît, soyons précis, il disparaît jusqu'à au territoire conquis par les Francs, c'est-à-dire jusqu'aux Pyrénées. Le royaume se poursuit, mais en Espagne.
Ouais. En Septimanie, finalement.
Et en Septimanie, c'est-à-dire la bande côtière, ce qu'on appelle les sept cités, la Septimanie, donc depuis le Pertus jusqu'au Rhône, hein, toute la bande du Languedoc méditerranéen. Et du coup, pour la première fois, Toulouse se retrouve avec une frontière à l'est. C'est-à-dire qu'on a vu, là, depuis des milliers d'années, depuis 4000 ans avant notre ère, une ville extrêmement arrimée au monde méditerranéen, y compris sur le plan commercial, sur le plan des migrations, des populations, etc. Et tout à coup, les Francs, ne prennent pas le royaume jusqu'à la mer. Il faut dire que les Visigoths ont quand même leurs alliés et cousins ostrogoths, qui, quelques années auparavant, en 493, sont installés en Italie et jusqu'en Provence. Ils font la jonction. Et du coup, mais ils n'ont pas encore la puissance, une puissance telle que ça fasse la différence à Vouillé. Mmh. On le voit puisque Clovis gagne. Et voilà. Et du coup, il y a cette fameuse frontière qui passe au niveau du seuil de l'Ouraguet, quoi, hein, qui fait que Toulouse, non seulement n'est plus une capitale politique, les Visigoths se replient, la cour royale se replie à Narbonne, de là elle passe à Barcelone. À Barcelone, c'est le bazar entre dans la succession dynastique. Enfin bon, bref, on les retrouve après à Séville. Bon, pour tout ça, pour fixer la nouvelle capitale royale à Tolède.
Ouais.
Sébastien, ouais. Tu étais il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc jusqu'à l'arrivée donc des Omeyyades, dans des troupes musulmanes au 8e siècle en Espagne, dont le royaume Visigoth perdure, mais dans la partie espagnole. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'on voit que les Espagnols, eux, connaissent bien l'histoire
Ils se revendiquent de la dynastie visigothe.
Ils viennent à Toulouse.
Et ils conservent le rite visigoth.
Oui, dans certains endroits, oui, tout à fait. Oui. Et quand ils viennent à Toulouse, moi je les vois là dans le centre-ville, etc. Il est beaucoup question de Toulouse. Vous savez, quand on les voit avec les casques sur les oreilles visiter la ville, il est beaucoup question de cette page d'histoire. Pour eux, c'est important. Parce que la première capitale, c'est Toulouse, avant Tolède. Mmh. Voilà. Bon, je referme cette petite parenthèse.
Alors, Toulouse, on dit, Toulouse a dû quand même perdre énormément d'habitants, notamment les Visigoths ariens, ce sont les premiers certainement à être partis.
Oui, et probablement dévouillés, c'est-à-dire que les Francs...
Est-ce qu'on a une idée du nombre de la population du nombre de la population qui a été obligée de quitter la ville?
Oui, Aline, les historiens estiment que, déjà quand ils sont arrivés, au début du 5e siècle, la jauge, l'ordre de grandeur, ce serait 100 000 personnes.
Ah oui, c'est considérable.
100 000 personnes réparties dans la Grande Aquitaine.
Oui, oui.
Avec des endroits plus peuplés que d'autres, probablement, parce que justement, on l'a vu au niveau des élites locales, etc. Il y a eu des territoires plus accueillants, on va dire, que d'autres. Dans les territoires plus accueillants, il y a notamment toute la vallée de la Charente, toute la région d'Angoulême jusqu'à la mer, un grand noyau de peuplement visigoth. on les retrouve aussi beaucoup dans la région toulousaine. C'est-à-dire, en gros, depuis le confluent Tarn et Garonne jusqu'au seuil du Lauragais. Là, c'est un territoire où ils se sont installés très massivement. Ça a peut-être été négocié. Alors là, je dis peut-être, c'est vraiment une supposition, enfin une hypothèse vraiment de ma part. Peut-être que les historiens feront des bons sur leur chaise, si certains nous écoutent. Mais en rapport avec le choix de Toulouse capitale.
Oui, oui,
voilà.
Oui.
Donc, sur ces 100 000, c'est difficile de savoir combien étaient dans la région toulousaine, mais ça doit quand même représenter, ça doit plutôt se chiffrer en dizaines de milliers.
Et alors, je suppose qu'ils n'ont pas fait que quitter la ville, ils ont quitté les campagnes aussi.
Oui, tout à fait. Et dans Toulouse même, on devait trouver essentiellement les élites et la cour royale.
Oui. Les proches du pouvoir.
Les proches du pouvoir. Oui. Mais ce qui veut dire qu'en 507, dès la bataille de Vouillé, toute cette population arienne a fui la ville. L'armée franque n'arrive qu'en 500, l'année d'après, en 508. Mais quand ils arrivent...
Oui. Le monde est parti.
Voilà, la population arienne est partie. Ça fait un grand, grand vide. Alors, est-ce que c'était 100 000 ? Certains historiens disent que c'est une époque de relative prospérité dont la démographie a dû se développer. Ils étaient peut-être 200 000 au moment où ils sont partis. Bon, 100 000, 200 000, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, ils sont partis. Est-ce que tous les Visigoths étaient restés ariens ou est-ce que, sachant que les évêques nicéens ne voulaient pas de mariage mixte, mais bon, dans la vraie vie, est-ce qu'il n'y a pas eu des mariages, des conversions? Est-ce que la question religieuse a été vraiment... On n'en sait rien. Mais en tous les cas, ceux qui étaient vraiment ariens sont partis. Et ils ont été remplacés par des Francs, et probablement à peu près dans les mêmes proportions.
Ah oui, et même dans les campagnes.
Et
on peut imaginer des colons francs.
Des colons, oui. On le voit notamment à Lille, dans la toponymie de la région.
Oui.
C'est-à-dire
toujours
dans cette bande de territoire qui va en gros de Valence d'Agen à Castelnaudary, ce sont les noms en ville. Ce sont des noms francs, villa. La villa, c'est-à-dire c'est la villa de machin ou la villa de monsieur machin ou de monsieur chose. Tous ces noms qui aujourd'hui sont francisés en ville sont des noms d'origine franque et traduisent un peu cette forme de colonisation. Hein, c'est-à-dire que la place est laissée par les paysans visigoths. Ben, c'est les Francs qui ont pris cette place-là. Dans Toulouse, c'est un peu plus compliqué à dire parce que la ville n'était plus une capitale. C'était probablement plutôt une garnison qui protégeait la frontière donc, de l'Est.
C'est-à-dire Il n'y avait plus de pouvoir
central. La ville est coupée de la Méditerranée, donc ça a dû entraver le commerce. Peut-être pas complètement, mais quand même un petit peu.
La notion de frontière, c'est pour une frontière.
C'est pour eux, oui.
Il n'y a pas des...
Tout à fait. Les Visigoths, les premières années, les Visigoths repliés à Narbonne tentent de reconquérir Toulouse et harcèlent. Du coup, ce n'est pas des batailles, mais c'est plutôt des tentatives. Mais probablement que, entre la population visigothe en Septimanie et la population gallo-romaine, la mayonnaise ne prend pas. C'est-à-dire que très vite, il y a un statu quo, c'est-à-dire entre Carcassonne d'un côté et Toulouse de l'autre, alors même qu'à la base, c'est le même territoire romain, hein, en termes politiques, administratifs. Là, du coup, entre les deux, il y a une frontière politique. Voilà. Mais probablement une garnison, pas forcément une place forte énorme, mais quand même plutôt des soldats, on va dire, en termes de place franque.
Et donc, je suppose qu'il y a eu des démolitions, certainement. Des démolitions d'ouvrages importants.
Les archéologues, lorsqu'ils ont fouillé le site Larré et qu'ils ont retrouvé les bases de ce fameux palais très important, dont on dit avec prudence qu'on n'est pas totalement sûr, mais que quand même, ça pourrait bien être le palais des rois visigoths, parce qu'au 5e siècle...
C'est un peu la tête d'un palais.
voilà. Ils trouvent aussi les traces de destruction.
En fait,
ce palais est détruit par les Francs, donc symbole de pouvoir. Les Francs, visiblement, les Visigoths sont partis, donc il n'y a aucune raison de brûler,
de détruire
la ville,
d'en
détruire les remparts, etc. Au contraire, ils arrivent dans une ville.
Oui, parce que c'est reconstruire est très onéreux.
Donc ça n'a aucun intérêt. Ouais. Mais, alors peut-être un petit retour en arrière, on a déjà un peu changé de monde, c'est pareil dans tout l'Occident, et même dans les villes, on voit les évolutions dans les villes orientales. Tu me dis, Sébastien, si on est dans les temps, on a une minute. La ville a commencé à changer, parce que, enfin, le constat, c'est que le plan orthogonal, très régulier, avec des pâtés de maison, des insulaires, des îlots urbains très rectangulaires, carrés, des rues droites, alignées, etc. etc. Ce plan-là commence à se déliter. Pas en cœur de ville, même si le forum est probablement déjà
un peu bousculé,
et plutôt ressemble à un champ, enfin un marché, mais de plein champ. Oui. Mais le temple n'existe plus. Bon. Donc il y a la zone centrale qui probablement tient le coup en termes de plans et d'habitat et de construction. Mais on voit déjà des rues devenir plus tortueuses, sinueuses, des empiètements.
On va voir se rejoindre le beau tracé orthogonal avec des...
Oui, avec des enlevements,
des
accommodements, et puis des rues qui peut-être redeviennent des chemins. C'est-à-dire que les empierrements ont disparu, ça redevient du chemin. Toutes les maisons ne sont pas construites à la romaine, en matériaux. Enfin, on revient peut-être quasiment à un paysage urbain des villes celtes, gauloises, hein, avec des maisons en ossature bois et torchis, isolées au milieu d'un terrain. Voilà, c'est-à-dire on commence à voir une ville un peu hybride entre son caractère romain et déjà ce qu'on peut considérer avec trois guillemets de chaque côté comme médiéval, en tous les cas comme haut médiéval. On y reviendra la prochaine fois, Sébastien.
Donc, voilà, l'embryon de la ville que nous allons connaître.
Merci à vous deux et bonne semaine à tous, chers auditeurs.